20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. L'Orchestre National d'Île-de-France a 50 ans cette année. Keys Scallion, son directeur musical, une dizaine d'années de moins. Ils se retrouveront ces prochains jours pour une nouvelle tournée avec dans leur bagage Mozart et Shostakovich. L'occasion pour le chef américain de faire un point sur sa collaboration avec cet orchestre dont il est depuis 5 ans le directeur musical. Il sera ainsi tout à l'heure à notre micro. Le temps de notre petit panorama quotidien de l'actualité musicale. Après le Théâtre des Champs-Élysées et avant l'Opéra National de Paris, dont je vous parlerai demain, c'est à la Philharmonie de Paris de nous dévoiler sa prochaine saison. Entretenir la flamme, telle est l'ambition de son directeur Olivier Mantei, pour qui la Philharmonie de Paris est un lieu qui accueille les plus grands artistes et orchestres du monde, mais également un espace où naissent des productions, des spectacles inédits, dans une grande salle transfigurée, ce sont ses mots. Alors cette année, on y célébrera entre autres Ravel et Boulez, on reliera des œuvres du passé au présent à travers de nouvelles dramaturgies, on y donnera du musical également, en façon Broadway, et cela grâce à la collaboration de metteurs en scène tels Laurent Pelli, Peter Sellars ou encore Romeo Castellucci. Des productions, des créations auxquelles participeront notamment les musiciens de l'Orchestre de Paris avec leur chef Klaus Mäkelä. À noter que Klaus Mäkelä et les musiciens de l'Orchestre de Paris inaugureront leur nouvelle saison au mois de septembre avec des œuvres chorales de Petteri Vasks ainsi que le concerto pour violon de Tchaïkovski en compagnie de la violoniste Lisa Batiashvili. Alors la transmission sera également renforcée à la Philharmonie de Paris à travers différents programmes dédiés à la jeunesse et notamment l'Institut Philharmonique de Paris proposant un enseignement professionnalisant embrassant tous les métiers liés à la production musicale. Alors toute la programmation vous sera dévoilée dès vendredi sur le site de la Philharmonie de Paris. L'ouverture des abonnements concerts ce sera le 3 avril dès midi. Les abonnements jeunes le 9 et les abonnements pour les concerts à l'unité le 30 avril. Il n'y a pas que l'Orchestre National d'Île-de-France qui fête ses 50 ans cette année. Le Concours International de Piano de Cleveland passe également le cap des 5 décennies et se délocalisera exceptionnellement à Paris pour son premier tour de sélection européen. Ce sera à la Salle Cortot du 1er au 5 avril. 32 candidats venus du monde entier se produiront durant cette semaine, donneront des récitals solo de 30 minutes, des récitals qui seront d'ailleurs également diffusés sur le site pianocleveland.org. Et puis quelques jours avant, le 25 mars, la Salle Cortot accueillera d'autres jeunes talents que vous pourrez applaudir dans le cadre de masterclass publiques et de concerts du quatuor Modigliani avec les étudiants du programme élite de l'École Normale de Musique. Alors il s'agit en l'occurrence ici des musiciens du jeune et prometteur Novo Quartet, récemment récompensé au concours de Genève. C'est cette semaine, ce vendredi, que sort chez Sony l'un des albums, un coffret même, les plus attendus de l'année forêt, l'intégrale de son œuvre pour piano par Lucas de Bargue, à savoir plus de 4h30 de musique répartie en 4 CD. Le pianiste nous révèle ici sa fascination pour l'art de ce compositeur qui, durant sa très longue vie créatrice, n'a cessé d'écrire pour le piano, témoignant d'un langage aussi sensuel que troublant, voire complexe, dans ses harmonies. Des pages dont Lucas de Bargue souligne justement merveilleusement la poésie comme l'étrangeté. Lucas de Bargue qui sera très prochainement notre invité dans le journal du classique.
Thank you.
Barcarolle de Forêt sous les doigts de Lucas de Bargue, un extrait de cette formidable intégrale de l'œuvre pour piano de Forêt par Lucas de Bargue, qui sort vendredi chez Sony et qui sera la semaine prochaine Trophée Radio Classique.
L'Or Maison sur Radio Classique.
L'Orchestre National d'Île-de-France, qui fête ses 50 ans cette année, retrouve ces jours-ci son directeur musical, Keyes Scallion, pour une nouvelle série de concerts, une tournée, qui fera étape à la Philharmonie de Paris, notamment le 25 mars, et sera même captée par les micros de Radio Classique. Keyes Scallion, qui est notre invité ce soir, bonsoir.
Merci pour m'avoir invité, c'est toujours un plaisir.
Mais c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver. C'est une saison particulière, c'est une saison anniversaire, les 50 ans de l'orchestre. Comment l'avez-vous pensé, justement, cette saison? On a l'impression, quand on regarde la programmation générale, que vous avez eu envie de mettre en valeur toutes les facettes, toutes les couleurs de l'orchestre.
En fait, ça, c'est le métier de notre orchestre, c'est de célébrer la musique de 4 siècles en même temps. Mais d'abord, j'avais envie de célébrer la connexion avec notre chère région.
Et de mettre en avant justement cet éclectisme que développe l'orchestre. On en a souvent parlé, l'Orchestre National d'Île-de-France, c'est un orchestre très flexible, qui est capable de jouer des programmes et des compositeurs très différents. J'ai compté, je me suis amusée à compter, il y a plus d'une vingtaine de compositeurs différents cette saison, très peu de doublons. D'ailleurs, finalement, l'Orchestre National d'Île-de-France, son répertoire, il va de Vivaldi à la musique d'aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'on peut entendre, ne serait-ce que cette saison.
Ça, c'est notre but, de parler de la musique tchèque, la musique française, la musique allemande, sans accent.
Et la musique de Mozart, puisqu'il y a un compositeur qui revient plusieurs fois cette saison, que vous dirigerez ces jours-ci, Keyes Scallion, c'est Mozart. Alors vous donnerez son 23e concerto, puis un petit peu plus tard dans la saison, sa grande messe en ut. Mozart, c'est un compositeur qui souvent fait peur aux orchestres, en tout cas aux orchestres qui jouent sur instruments modernes, puisque derrière cette simplicité, c'est une musique très difficile, très exigeante à jouer. C'est une musique essentielle aussi pour un orchestre, selon vous?
C'est essentiel pour le développement d'un orchestre, parce que tout le sens, l'expression du XXe siècle, de Mahler, de Wagner, Bruckner, Ravel, ça a vraiment commencé à l'époque avec Mozart. Mais comme vous avez dit, la simplicité, ça fait sa musique très accessible pour le public, et ça c'est bon, mais pour nous c'est extrêmement exigeant. Parce qu'on ne peut pas se cacher. Il faut jouer vraiment précise, mais en même temps avec émotion. Et ça, c'est un défi, ouais, on peut dire.
Et puis arriver à doser cette émotion, trouver un équilibre pour ne pas en faire trop, pour garder en même temps ce côté simple et épuré.
Exactement. Et si on trouve, si on essaye tout le temps de jouer vraiment très précise, ce n'est pas du tout intéressant, ça. Il y a une humanité avec sa musique de Mozart, mais ça fait un grand challenge chaque fois.
Mozart, dont vous dirigerez donc ces prochains jours le 23e concerto pour piano avec Gianni Di Luca, et puis un petit peu plus tard dans la saison, la messe en ut. La musique sacrée, vous me confiez tout à l'heure hors micro que vous venez de diriger votre première passion selon Saint-Jean en Allemagne. La musique sacrée, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Keyes Scallion?
La musique en général nous apporte des autres points de vue. Pour les gens qui sont pas croyants, on peut se mettre dans cette perspective. Je crois que le grand public de la musique classique, on n'a pas beaucoup de croyants chez nous. Mais on peut comprendre tout quand on entend la musique sacrée de Mozart, de Bach. On dit ah vraiment, c'est tellement clair comment quelqu'un peut dédier sa vie à quelque chose comme ça.
Il y a une dimension universelle dans ce message, dans ces œuvres.
Oui, j'ai parlé un peu de ça la semaine dernière avec mon orchestre allemand, parce que on a joué avant la Passion de Bach, Ramification de Ligeti. Ouais. Et j'ai parlé de la vérité dans la musique, qu'il y a des choses universelle entre les cultures. Et que même si la musique semble complètement différente, pas du tout pareil, il y a une variété là qui nous connecte entre cultures. Et ça, c'est quelque chose de magnifique que j'adore de célébrer, de trouver cette variété.
Et puis, il y a un autre compositeur qui, à travers sa musique et même sa musique symphonique, nous donne des messages d'une grande portée universelle et politique. C'est bien entendu Beethoven, dont vous avez enregistré Caïscalion, la symphonie héroïque, avec l'Orchestre national d'Île-de-France. On en écoute un extrait. Quelques notes de la symphonie héroïque de Beethoven par l'Orchestre national d'Île-de-France et son chef Caïscalion. Caïscalion qui est notre invité ce soir sur Radio Classique. Vous avez réalisé deux enregistrements avec l'orchestre, l'un dédié à Beethoven, l'autre à Wagner, dont on écoutera un petit extrait tout à l'heure. On attend les prochaines publications.
Vous avez
ça commence
dit.
À dater un peu.
Ça va passer. On a fait beaucoup de choses, mais il faut les mettre dans un disque.
Et quel répertoire vous avez mis en boîte?
Il faut que ça soit une surprise.
Ah, monsieur secret. Donc
mais quelque chose de magnifique.
Alors, cela fait 5 ans maintenant que vous partagez cette aventure avec l'Orchestre national d'Île-de-France en tant que directeur musical. En 5 ans, qu'avez-vous appris auprès de ces musiciens? Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Comment avez-vous grandi aussi à leur côté?
On a grandi ensemble, en fait. J'ai appris beaucoup, beaucoup de votre répertoire. Mais bien sûr que j'ai étudié beaucoup la musique de Debussy, de Ravel. Mais après avoir jouer cette musique avec ma chère famille française, j'ai appris beaucoup de choses. Il y a des problèmes chez nous aux États-Unis, dans d'autres pays, qui sont pas du tout difficiles ici.
Ah oui.
Et de jouer la musique française aussi sans accent, même si j'ai un accent américain quand je parle français. Mais Il faut dire aussi que la générosité de cet orchestre, il y a toujours un esprit très ouvert. Ils attendent de nouveaux répertoires. Surtout, j'ai appris beaucoup de votre culture. J'étais hospitalisé l'année dernière. Et après cette expérience, je me sens plus proche.
Oui. Parce que j'avais découvert les hôpitaux français, les soins en France.
Et les médecins, ils parlent.
Et la gratuité des soins.
Oh, mon Dieu. Ça, j'ai une dette, on dit, que je ne peux pas repayer à ce pays. Je suis si reconnaissant pour ça. Mais à l'hôpital, tous les médecins parlent anglais couramment, mais les infirmières non. Et d'être en souffrant avec des autres Français, d'avoir parlé tout le matin, on a attendu la nourriture chaque jour ensemble. Je sais pas, ça fait quelque chose. Même si j'ai essayé d'apprendre français, avec toutes les cultures, il y a vraiment un mur. Mais il a vraiment disparu depuis cette expérience.
Vous vous sentez français, en quelque sorte?
Oui,
aujourd'hui.
Tout à fait. Ouais. Tout à fait.
En tout cas, vous avez fait des progrès incroyables en français, quand même, depuis 5 ans. Et puis, vous connaissez bien la France, puisque vous ne vous contentez pas de jouer à Paris. Alors, évidemment, vous donnez des concerts à la Philharmonie de Paris, l'une des plus belles salles au monde, des plus prestigieuses. Mais vous allez de l'autre côté du périphérique, où certains Parisiens ne vont jamais. D'ailleurs, vous connaissez aussi ce côté-là, cet autre public qui est peut-être un peu plus néophyte, en tout cas qui a moins l'habitude de concerts. Vous jouez dans des salles plus modestes. Quel regard portez-vous aussi sur ces publics, sur ces salles que vous connaissez, sur ces villes de l'autre côté du périphérique?
Je viens de la région, de l'autre côté de la périphérique, au Texas, pas en France. Et c'est pour ça, les concerts dans la région, ils apportent un sens très important pour moi. Parce que je viens de là-bas. C'est évidemment un honneur de jouer dans l'une des plus grandes salles du monde. Et le public à Paris, c'est si chaleureux et ça fait grand plaisir de jouer là-bas. Mais j'ai le sentiment de présenter au public dans la région de temps en temps la première fois avec une symphonie de Beethoven, de Tchaïkovski. Et ça fait un grand plaisir. Ça c'est peut-être la partie plus importante dans notre métier, de partager ce cadeau tout le temps. Et on peut le faire chaque semaine. Et c'est vraiment génial.
Ce que vous allez faire ces jours-ci, puisque vous jouerez à la Philharmonie de Paris, mais aussi à Alfortville et à Enghien-les-Bains, ce programme avec le 23e concerto de Mozart, joué par Shani Di Luca en soliste, et la 5e symphonie de Shostakovich. Et puis, vous avez fait appel également, Kay Scallion, à une comédienne, Séphora Pondy. Elle est sociétaire de la Comédie française. Elle lira des textes d'André Lischke. Alors, ce n'est pas la première fois que vous avez eu l'idée de mettre un texte avant une œuvre musicale. Vous aviez illustré, alors vous n'aviez pas pu le diriger parce que vous étiez malade à ce moment-là, mais on se souvient de cette 5e de Malheur précédée de textes d'Delphine de Vigan. La littérature, elle vous inspire en tant que musicien, elle joue un rôle important aussi dans votre démarche de musicien, de chef d'orchestre?
Tout à fait, même si je crois que la musique est un art plus haut que la littérature parce que c'est beaucoup plus spécifique. La littérature peut faire de temps en temps un point d'entrée avec les grandes œuvres comme la 5e de Shostak, la 5e de Mahler, la saison dernière. Et c'est vraiment juste de donner un point d'entrée, c'est ça.
Voilà, donc des textes d'André Lischke avant la 5e symphonie de Shostakovich pour ce concert. L'un des moments forts de cette saison anniversaire, 50 ans de l'Orchestre National d'Île-de-France. Comment envisagez-vous, Kay Scallion, cette 6e décennie, puisque vous allez l'accompagner, votre contrat a été prolongé jusqu'en 2026. Comment le pensez-vous, le futur, la suite de l'aventure?
De construire un avenir que j'ai reçu et qu'on a développé, de continuer à faire collaboration avec des autres institutions dans Île-de-France, de célébrer la culture si riche de la musique, d'art, de littérature, et de donner quelque chose à la future plus développée qu'on a reçue.
Mais est-ce que vous tissez des ponts déjà avec certaines institutions en particulier?
On peut pas parler de ça, mais bon. Tout à fait, tout à fait.
et ces programmes, souvent très originaux, je pense par exemple à tout un projet autour du vélo, ces concerts à bicyclette qui vont l'un des projets à venir de l'Orchestre National d'Île-de-France. Vous avez envie, vous aussi, de peut-être de vous y engager aussi encore plus, faire du vélo entre deux concerts, par
oui,
exemple,
tout c'est
quelque
à
chose
fait.
Que vous pourriez
oui,
aussi
j'ai,
envisager.
Oui, j'aime beaucoup les vélos. J'ai le vélo électrique. Ma femme déteste ça.
Ouais. Mais... C'est un peu triché, le
oui.
vélo électrique.
C'est dangereux, je sais.
C'est ce genre de projet que vous avez aussi envie de continuer à insuffler pour l'orchestre.
Oui, ouais. Oui, on reste toujours ouvert. Le truc plus important pour nous, c'est de faire contact avec le public, ouais. partout et pour tous, comme on dit.
Et puis, il y a également l'opéra. Vous avez déjà dirigé de l'opéra avec l'orchestre. Vous avez fait la saison dernière de beaux débuts à l'Opéra National de Paris. Est-ce que c'est un genre, on sait que c'est un genre que vous aimez, Kaïs Kallion, vous nous l'avez déjà dit, est-ce que c'est un genre que vous pourriez développer davantage avec l'Orchestre National d'Île-de-France?
Oui.
Oui, mais j'en saurais pas plus.
Désolé.
Et quand est-ce que la prochaine saison sera dévoilée un petit peu plus tard?
Oui.
On en saura davantage.
Exactement.
Bon, ben, on va en rester là. Rendez-vous en tout cas le 25 mars à la Philharmonie de Paris, juste avant le 23 à Alfortville et le 28 à Enghien-les-Bains, avec Shani Di Luca et la comédienne Séphora Pandy pour le 23e concerto de Mozart et la 5e symphonie de Shostakovich. Merci beaucoup, Kaïs Kallion.
Merci.
La mort d'Isolde de Richard Wagner avec Michel de Jong et l'Orchestre National d'Île-de-France dirigé par Kay Scallion. Kay Scallion en concert avec ses musiciens le 23 mars à Alfortville, le 25 à la Philharmonie de Paris et le 28 à Enghien-les-Bains avec la pianiste Shani Di Luca et la comédienne Sephora Pondy. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Diane Chambriard pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du pianiste Florian Noack qui viendra nous présenter son superbe album de transcription. Mais tout de suite, je vous invite à prolonger cette soirée en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.